Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage des récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je remercie notre sponsor, la Fédération Française de Plongée, pour son soutien et son engagement à faire découvrir la plongée au plus grand nombre. Avec 2500 clubs partout en France, la FFE de Zessem propose une gamme d'activités en piscine et en mer qui va de la plongée sous-marine à l'apnée en passant par la nage avec palme. Alors foncez consulter leur site pour découvrir le sport subaquatique qui vous fera du bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de La Tête en Mer avec le renommé plongeur professionnel, réalisateur et producteur de films sous-marins, René Euzet. Son talent en tant que plongeur vidéographe lui a permis de travailler sur de magnifiques projets sous-marins. Il a collaboré avec de célèbres producteurs tels que Jacques Perrin sur le film Océan, Luc Besson, David Attenborough et bientôt James Cameron. Il a également beaucoup travaillé avec Thalassa et a reçu de nombreuses récompenses pour ses images. René est un homme de l'ombre. Vous avez sûrement tous vu au moins une de ses images sous l'eau et pouvoir interviewer un plongeur hors pair comme lui a été pour moi un honneur et un vrai plaisir. Bonne écoute, et plus que jamais je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous. Bonjour René.
Bonjour Audrey.
Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de La Tête en Mer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas reçu d'invité et on a eu le plaisir de se rencontrer tous les deux sur le Salon de la Plongée cette année, au mois de janvier 2023. C'était un honneur pour moi de vous rencontrer. J'avais entendu beaucoup parler de vous. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui travaillait parfois un petit peu dans l'ombre pour des projets dont tout le monde finalement a connaissance, que tout le monde connaît. Des grands films, des grands documentaires. Vous avez l'air d'être un passionné à la fois de plongée, de vie marine et aussi d'images, photographie, vidéo. Je vais avoir le plaisir d'échanger avec vous pendant cette prochaine heure et pouvoir vous interroger sur tout ça et vous nous expliquer un petit peu votre parcours et votre vie qui m'a l'air d'avoir été bien remplie et qui est encore bien remplie sur les prochains projets. Vous allez nous en dire un petit peu plus.
Ok, avec plaisir.
Qu'on commence. Alors, je sais que vous avez commencé votre carrière sous l'eau, si je puis dire, en tant que scaphandrier. C'est un métier, je pense, que le grand public ne connaît peut-être pas trop. On n'en a jamais parlé, en tout cas, sur le podcast. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu nous expliquer quel est ce métier, comment vous en êtes arrivé à vouloir enfiler cette énorme combinaison et vous immerger pendant des heures sous l'eau?
Alors, en fait, moi, j'ai démarré en 1990. Et à l'époque, lorsqu'on doit travailler sous l'eau, ce qui est toujours actuel, on est obligé d'avoir une certification professionnelle. C'est un peu comme un permis de conduire. Parce qu'il y a la plongée loisir et la plongée professionnelle. D'accord? Et donc, moi, en fait, avant, j'étais routier. J'aimais la route, puis de la route, j'en ai eu marre, je suis passé à la mer. Et pour pouvoir travailler, il me fallait ce diplôme de scaphandrier professionnel. Et à l'époque, il n'y avait qu'un type de diplôme, c'était le classe 2A qui consistait à nous autoriser à travailler à l'air jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc, c'est une école de scaphandrier qui maintenant a changé parce que si vous voulez, moi, mon métier, c'était de faire de la vidéo. Mais malheureusement, à l'école, à l'époque, avant de faire ça, il fallait que j'apprenne à toucher un marteau-piqueur. Je devais faire du soudage. J'avais plein de travaux à faire sous l'eau qui, pour moi, ne m'intéressaient pas parce que ça n'allait pas du tout avec mon activité. Mais pour être en règle avec la législation du travail, j'étais obligé de passer par cette école-là. Voilà. Maintenant, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle une classification B qui permet justement à toutes les autres professions de mer, sauf les travaux sous-marins, de pouvoir travailler. Je pense à la photo, je pense à l'archéologie sous-marine, je pense au pharmacocole. Voilà. Et toutes ces petites activités nous permettent de travailler sans pour avoir besoin de passer par les travaux sous-marins.
D'accord. Ok, très bien. Et vous avez exercé combien de temps du coup en scaphandrier?
Ben moi, le scaphandrier, en fait, j'ai pas fait de
Ouais.
mission parce que d'une part, manier un marteau-piqueur, c'était pas fait pour moi. Souder sous l'eau, je prenais du courant dans les dents à chaque fois. J'étais pas doué pour ça. Donc, et par contre, là-bas, eux, ils étaient pas équipés de caméra. Donc, du coup, je prenais ma petite caméra, je filmais les copains en train de souder et tout. Et c'est comme ça que je me suis forgé, en regardant les copains travailler sous l'eau, quoi.
Et c'est cette expérience-là, du coup, qui vous a donné envie, qui vous a finalement mis une caméra dans les mains et qui vous a donné envie d'aller plus loin sur l'image, ou vous aviez déjà ça en tête depuis un petit moment?
En fait, j'avais ça en tête parce que moi, je suis un adepte des films du commandant Cousteau. Comme tout enfant, hein, on regardait Thalassa et le commandant Cousteau. Et comme je suis à Marseille, j'étais au bord de l'eau. Un jour, je vois un reportage à la télévision et dans ce reportage, les gens disaient que la Méditerranée était une mer morte, qu'elle était super polluée. On était déjà dans les années 80, 85 par là.
On disait déjà ça à l'époque.
Ouais, on
Ouais.
disait déjà ça à l'époque. Et puis du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, parce que moi, où je plonge, j'ai appris à plonger en 85, 86, et je voyais de belles choses. Bon, c'est vrai que la mer n'était pas toujours aussi propre, elle était même moins propre qu'avant, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les stations d'épuration, mais tout dépendait de l'orientation des courants. Qu'il y avait du courant d'est, eh bien, on avait de l'eau plus chargée, parce que les égouts se déversaient. Par contre, il y a du Mistral, tout dégageait vers le large, c'était bien. Et après, en faisant ma petite enquête, je me suis rendu compte que les gars avaient filmé le reportage à la sortie des égouts. Donc,
D'accord.
je suis allé prendre ma caméra, je suis à la sortie des égouts, et effectivement, il y avait une visibilité de moins d'un mètre, l'eau était vraiment sale et tout. Mais je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'on résume la Méditerranée à une sortie d'égout. Et donc, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. J'ai dit, je vais montrer au monde que la Méditerranée, non seulement elle n'est pas morte, mais il y a encore de très belles choses à voir. Et j'ai fait quatre films dessus, donc dont un qui m'a permis d'avoir ma palme d'or, ma première palme d'or au Festival d'Antibes, et qui m'a lancé justement à vouloir faire ce métier-là parce que je démarrais en vidéo. Et ça a
D'accord.
démarré en 87-88.
Ok.
Et ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, c'est l'arrivée du film du Grand Bleu.
D'accord. Ça vous a donné. Vous avez en plus un petit peu travaillé sur ce film-là.
Non, j'ai pas du tout travaillé sur ce film-là, mais le fait d'avoir que ce film soit sorti, les médias se sont intéressés en disant, oui, il y a quand même des choses à faire sous l'eau. Parce qu'avant, quand les gens voulaient faire des reportages comme Thalassa sous la mer, on tournait en pellicule et il fallait attendre plusieurs jours pour récupérer la pellicule et développer et diffuser. Tandis que moi, je débarquais avec les premières caméras vidéo, je sortais de l'eau, je donnais la cassette aux journalistes et hop, ils balançaient tout de suite au JT et ça marchait très bien. Bon, la
Génial.
qualité, à l'époque, la qualité était moins belle que la pellicule, mais pour la télévision, ça marchait très bien. Et puis surtout, c'était l'originalité. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des télétons en direct aussi sous l'eau. Ça avait été rarement fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis Thalassa m'a accroché en 1991. Et à un moment donné, il fallait faire un choix entre conduire ou plonger. Donc, j'avais monté d'abord une association. Et l'inspecteur d'impôt, il m'a dit, je vous donne 3 ans sur votre association, et au bout de 3 ans, vous revenez avec vos bilans, et soit vous reprenez le camion, soit vous prenez la mer, vous ne faites plus les deux. Parce qu'en fait,
Ouais.
je conduisais la nuit et je plongeais le jour.
Ah oui, d'accord.
Pour essayer à boucler mes deux passions, quoi.
Ok. Waouh. Et vous dites là, au niveau de la qualité, je sais pas, vous avez dû voir une sacrée évolution sur les technologies que vous avez utilisées du coup sous l'eau, j'imagine. Comment vous êtes adapté à ça? Est-ce que votre métier a été d'autant plus, enfin au fur et à mesure, d'autant plus intéressant et passionnant de par la technologie que vous aviez entre les mains? Ou est-ce que finalement, ce n'était pas mieux à l'époque?
Ben non, c'était pas mieux à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des pellicules et on était limité. Quand on tournait en 35 mm, on avait quoi? 5-6 minutes d'autonomie, de bande. En 16, on avait 7-8 minutes, c'était compliqué. Puis en plus, on savait pas on n'avait pas le résultat. Imaginez qu'on foire une bobine ou quoi que ce soit, on plantait le résultat. Tandis que moi, j'arrivais, j'avais une cassette de 60 minutes, hop, je sortais de l'eau, je visionnais, c'était bon, il partait, c'était pas bon, on repartait, on retournait à l'eau. Donc déjà, pour moi, c'était une très belle évolution. Et j'ai cru de toute façon à la vidéo. Moi, j'avais essayé au début de mon métier de faire que tout le monde me perfectionnait sur le film. Mais très vite, j'ai vu la complexité. Donc, je me suis dit, oh là là, je vais me mettre à fond dans la vidéo. Et tout le monde se moquait de moi en me disant, ouais, la vidéo, c'est de la DOS, ça aura jamais la qualité de la pellicule. Je dis, oui, pour le moment, mais on en parlera dans quelques années. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, on tourne plus qu'en vidéo, en numérique. Et ça nous apporte beaucoup, beaucoup d'aide sur le plan de technicité, aussi sur le plan lorsqu'on fait de l'animalier. Parce que du coup, on peut rester plusieurs heures sous l'eau, on a plus d'autonomie, et on a une meilleure définition et on évolue. Les sujets évoluent parce que les télés nous demandent, ou le cinéma, de plus en plus d'images originales et les caméras évoluent aussi. Donc pour nous, c'est bien parce que bon, maintenant, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier-là et ben, j'en apprends encore. Et c'est ce qui est fabuleux.
Et ouais, ça n'arrête pas d'évoluer. Et ouais, pour vous, c'est que du mal. Bah, je pense que ouais, vous avez bien vu le truc venir. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que même on est tous plus sensibles aussi à ce format vidéo plutôt qu'à de l'image. Je pense que la vidéo va créer des émotions que l'image créera peut-être moins. Et c'est ouais, je pense que c'est un format qui est vraiment fabuleux pour partager des choses, hein, et montrer.
Alors, c'est fabuleux à une condition, parce que la vidéo, c'est une image qui est très propre, très carrée, mais qui est froide. Voilà. Donc, et moi, je me souviens quand on a tourné le film d'Océan de Jacques Perrin, Jacques était un adepte du 35 mm, hein, parce que c'était un cinéaste de film, un producteur, réalisateur, et il était contre la vidéo. Et donc, on l'a expliqué que si on tournait en 35 mm, ben, on serait peut-être encore sur le tournage. Donc, on a fait des essais avec Philippe Ross, qui était notre superviseur de la vision, et avec Sony, on a développé des réglages vidéo, ce qui faisait qu'en fait que la vidéo ressemblait à l'image film, c'est-à-dire avec un petit peu de grain.
D'accord.
En gros, quand on sortait les cassettes, on a l'impression que l'image était pas terrible, mais en fait tout était prévu pour l'étalonnage, c'est-à-dire il y a un workflow, c'est le workflow, c'est un petit peu, c'est toute la chaîne qui est programmée de la prise de vue jusqu'au montage final, jusqu'à la diffusion. Et donc toute cette chaîne a été faite pour que l'image vidéo ressemble à la pellicule, au film. Et c'est ce qui se passe dans les films d'ailleurs, parce que si vous avez des images très propres, très carrées, c'est joli à un moment, mais après ça lève le côté naturel et ça manque de chaleur, parce que quand même en pellicule, il y avait une chaleur dans l'image.
D'accord, ok, intéressant. On sent l'expert technique qui parle. Et vous dites alors que le Grand Bleu a été pour vous un déclic ou plutôt peut-être une ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après ce film? Qu'est-ce que vous avez initié?
Ben, ce qui s'est passé après le Grand Bleu, il y a beaucoup. Déjà, il y a eu des écoles techniques qui sont développées, plein de jeunes,
Et
ça
oui.
donnait un engouement à une génération. Donc forcément, ben, ça intéressait les médias. Et donc il fallait filmer ces jeunes en train de faire des essais, de rejouer un petit peu les Jacques Mayol. Et comme ça, moi j'ai fait plusieurs émissions pour Thalassa avec des champions d'apnée. Et ça m'a donné une idée. En plus, il y a eu des publicités qui se sont développées sur la mer. Moi, je me souviens, j'avais fait tourner une publicité pour Citroën. Et donc, tout ça a donné un petit peu un engouement parce que on s'est rendu compte qu'il y avait une facilité de tourner l'image sous-marine beaucoup plus simple que ce que l'était à l'époque, dans les années 70-80, quoi.
D'accord. Et alors, on va aller directement sur les grands noms que vous avez, je pense, rencontrés. Je serais curieuse de savoir, mais comment ça s'est passé pour vous de faire ces rencontres et de travailler avec ces gens-là. Vous avez travaillé avec Yann Arthus-Bertrand, avec James Cameron, avec Luc Besson et David Attenborough, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé pour vous de rencontrer ces gens-là et quelle est pour vous leur sensibilité au monde marin?
Ben, ce qui est fabuleux, c'est que chaque réalisateur, dont Jacques Perrin, bien sûr, et
Bien
puis
sûr, j'allais en
aussi
parler plus tard, mais j'aurais dû le mettre dans la liste.
Georges Pernaud de Thalassa, chaque personnalité a un regard vraiment personnel de la mer et des océans. Voilà. Yann Arthus-Bertrand m'avait demandé de tourner pour lui pour son premier sujet. C'était Homme, je crois, il me semble, ou le deuxième, je me souviens plus. Et dans lequel, d'ailleurs, j'avais filmé un scaphandrier professionnel. C'était là. Puis, j'avais filmé aussi des images de cachalot. Donc, lui, il voulait un regard. Son film sortait juste après le film Océan. Et donc, il voulait dénoncer un petit peu les beautés, mais aussi les méfaits de l'être humain qui a l'impact sur la mer et les océans. Donc ça, c'était une chose. Avec James Cameron, je devais le bosser avec lui en 2021. Et j'ai commencé à tourner avec son équipe en 2020 à Maurice, mais malheureusement, il y a eu le Covid. Et donc, le projet a été arrêté. Donc j'espère qu'il va repartir parce qu'après il est parti sur Avatar 2, là il part sur Avatar 3. Donc le projet est un peu en stand-by, mais j'espère qu'on repartira sur ce projet-là. Voilà. Pour Luc Besson, j'ai bossé pour ses producteurs de Luc Besson dans le Cours notamment, et puis on avait fait un pilote avec Maud Fontenoy. Mais ce sont des, voilà, ce sont des, ils, pour moi, ils étaient plus posés en tant que producteurs que réalisateurs sur ces films-là. Et David Attenborough, bien entendu, je suis très content qu'il ait pu mettre sa voix sur notre documentaire. Et puis, il m'a demandé un jour, justement, il voulait faire un petit sujet sur l'environnement. Et il avait pris une de mes séquences où j'avais Elliot qui avait qui avait un seau dans sa gueule. C'était un cachalot qu'a donné Maurice. Grâce à cette image-là, on a eu un Emmy Award de la production des océans avec la BBC. Et donc, David m'a appelé pour me remercier. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a envoyé un livre dédicacé aussi. Donc, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça compte énormément. Parce que ne serait-ce que m'appeler pour dire merci, Ronnie, c'est super. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses, quoi.
Ouais, c'est touchant, c'est gratifiant de la part d'une personne comme ça et
Comme tu le disais au début, nous, on est des hommes de l'ombre, on est derrière, et notre métier, c'est d'être là, de vous faire rêver à travers de personnes comme James, comme David, comme Jacques. Et nous, on cherche pas à avoir une célébrité, d'être une star. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit content et que on arrive avec nos images, dégager de l'émotion, de la sensibilité. Et surtout, maintenant, ce que dans mes images, j'essaie de faire comprendre aussi aux gens qu'il faut respecter réellement les océans et ses habitants.
ouais, cette sensibilité-là, vous diriez qu'elle a évolué au fur et à mesure de vos projets, de vos rencontres sous-marines, peut-être aussi?
Ah, bien sûr, tout évolue. Tout évolue parce que déjà, l'état des océans a changé aussi. Donc, c'est vrai, il y a des océans qui sont plus ou moins pollués. Il y a des endroits où il y a plus ou moins de poissons. Mais chaque fois, quand on regarde, tout est lié directement par l'impact de l'homme. Et c'est le gros problème, c'est que plus de 95% des déchets ou de pollution qu'on trouve en mer viennent de terre. Et qui viennent de terre vient pratiquement toujours de l'homme. Et le problème, c'est que il faut que les gens arrêtent de prendre la mer pour une poubelle ou un paillasson en jetant tout dans l'eau et en négligeant parce qu'en bas, il y a des habitants. Et puis, les océans sont là aussi pour nous aider à vivre parce qu'ils sont autant indispensables que les forêts, ne serait-ce pour nous capter notre CO2, nous recracher notre oxygène. Et puis, on a besoin pour notre nourriture.
Complètement, oui. Et est-ce que, comment ça vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu du coup plutôt, c'est plutôt des déchets que vous avez vus sous l'eau? Est-ce que vous avez fait des rencontres marines? On voit, c'est vrai, pas mal d'images choquantes parfois, de raies ou de tortues qui sont en train de manger du plastique ou qui sont même, voilà, ou des dauphins qui sont complètement pétris dans des filets de pêche qu'on doit sauver. Est-ce que ça, vous l'avez vu de vos propres yeux?
Ah ben oui, bien sûr. Nous, avec François, on avait un reportage en Tunisie. On était dans un filet de pêcheurs. Il y avait une tortue qui était coincée. Elle était pratiquement à l'agonie. Avec François, on l'a décrochée, on l'a montée. On ne sait pas si elle a survécu. Mais ça, on en voit de plus en plus, malheureusement, quoi. Donc, la pêche, c'est une chose, mais il y a et ce qu'il y a de bien en Méditerranée, c'est que depuis qu'on a arrêté la pêche au filet dérivant, on retrouve un peu plus de mammifères. C'est plutôt le côté positif de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on trouve des dauphins, des baleines, des cachalots, même des orques, parce qu'il n'y a rien de plus mortel pour un mammifère que le filet dérivant.
D'accord, et ça c'est une pêche qui est plus autorisée?
Ben, elle est interdite. Légalement, elle est interdite. Mais après, il y a toujours pareil, il y a des braconnages. Et puis, quand ça se passe dans le réseau international, là, c'est pareil, c'est un manque de.
Régulation,
C'est un
contrôle.
manque de législation. Non, mais c'est un peu une volonté aussi parce que on a les moyens de positionner chaque bateau avec des GPS. Hein, on sait où peuvent se trouver chaque bateau. Donc, on peut très bien les observer. On peut savoir où ils ont. Et donc, mais après, c'est toujours pareil. Il y a les pavillons de complaisance. Il y a les gros industriels derrière. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas rentrer en ligne de compte, mais on dénonce de notre côté avec nos images les conséquences qu'il y a après les passages de ces gros bateaux, quoi.
Bien sûr. Est-ce que vous considérez comme, je ne sais pas si on peut dire journaliste, mais comme journaliste engagé, activiste?
Non, 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 je ne suis pas un journaliste parce que j'ai regardé, je me suis rendu compte aussi que les journalistes aussi ont changé de mentalité. C'est qu'avant, un journaliste, il était là pour donner une information et maintenant, il donne l'information qu'il a envie de donner. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes ou de chaînes que je refuse de travailler parce que je ne suis pas là pour faire du sensationnel ni quoi que ce soit, surtout pour exagérer ou pour déformer une réelle information. Voilà. Et le problème, c'est que ben, du moment qu'il y a une info qui passe à la télé ou à la radio, eh ben, il y a monsieur et madame tout le monde qui voit ça, c'est pas parce que ça passe que c'est forcément réel. Et donc, du coup, on dit oui, mais j'ai vu à la télé, j'ai vu là, voilà. Eh ben, non, c'est pas forcément la réalité. Donc, je pense que là, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien aussi, il faut le dire. Voilà. Et il faut aussi le dire quand c'est bien, mais il faut pas déformer les informations. Voilà. Et le problème maintenant, c'est là parce que tout le monde dérape et tout le monde est perdu. D'ailleurs, on le voit actuellement, hein, tout le monde est perdu entre les crises, la guerre et tout. Et les gens sont négatifs. Les gens deviennent négatifs. Donc, sur quoi que ce soit, ben, on est tous sur la réticence. Non, c'est vrai qu'on a des problèmes. Eh ben, serrons-nous les coudes au lieu de tirer chacun la couverture et vous verrez que tout marchera mieux. Donc, ça marche sur la consommation. Maintenant, les gens ont pris conscience que on peut manger mieux. Donc, du coup, on y arrive. Parce que souvent, les gens me disent, oui, on ne peut rien faire contre la pêche. Je dis, si, on peut faire quelque chose contre la pêche. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de pêcher. Je dis, il y a des quotas, il faut respecter les quotas. Donc, parce qu'un pêcheur, s'il pêche, c'est parce qu'il vend. Et s'il vend, c'est parce qu'on achète. Donc, arrêtons d'acheter, le pêcheur arrêtera de pêcher. Parce qu'ils ont développé des techniques de pêche qui sont tellement sophistiquées que le poisson a plus le temps de se reproduire. Pourtant, la nature est là, nous offre ça, nous offre de quoi vivre, de quoi se nourrir. Ben, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est tout. Il faut réguler les stocks et on s'y retrouvera tous, quoi. C'est pareil en terre, hein, sur l'agriculture. On n'a pas besoin de mettre tous ces pesticides pour développer des trucs, pour augmenter les stocks. Mais on en détruit, et ben on se retrouve avec des cancers, on se retrouve des maladies. Donc, jusqu'où peut-on aller dans le côté naturel? Donc, et ça, ben c'est nous, en tant qu'individus, qui avons la décision finale de dire, OK, je veux manger bio, je veux plus consommer tel produit, et voilà ce que je dois faire. Voilà. On le voit sur les grandes surfaces. Au début, qu'il y avait les magasins bio, tout le monde s'en foutait. Maintenant, toutes les grandes surfaces ont des magasins bio. Donc, ça prouve qu'on a pris déjà un pas. Ben, il faut continuer sur tout ce qu'on doit faire, quoi.
Je suis 100% d'accord avec vous. Je pense qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir qu'on sous-estime souvent, alors qu'en fait, avec notre argent, si voilà, petit ou gros soit-il, on peut avoir de l'impact en consommant mieux.
Ben oui, moi c'est ce que je fais, hein, de toute façon. Donc, et moi je vais dans les écoles maintenant avec mon association pour éduquer les enfants, pour leur expliquer comment vit la nature. Je leur montre de belles choses. Je leur dis, vous voyez, ça, c'est ce que je viens de filmer. Eh ben, ce que j'aimerais, c'est quand vous aurez mon âge, que vous voyez aussi les mêmes poissons. Donc, et pour ça, ben, c'est à vous maintenant à mieux consommer, à moins polluer. Et ils me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, ben, il faut plus jeter les papiers, il faut plus jeter les plastiques. C'est pas parce que vous êtes au fin fond de la montagne que ça va pas à la mer. Donc, la nature doit être préservée si on veut, nous, s'en ressortir bien là, dans les prochaines années. Parce que c'est ces générations futures qui en pâtiront, hein, c'est plus nous. Nous, c'est fini. Là, on est vieux, on a fait beaucoup de dégâts, on ne savait pas, ou plus ou moins. Maintenant, on sait. Donc, maintenant, on n'a plus d'excuses. Et un enfant, c'est comme moi j'étais éduqué d'une manière. Si on l'éduque dès maintenant, à lui dire comment il faut changer notre mode de vie et l'adapter par rapport aux circonstances, eh ben, tout ira bien. Maintenant, ce sont les enfants qui rééduquent leurs parents, en matière d'environnement.
C'est clair. Et vous parlez beaucoup de Thalassa, René. J'ai l'impression que vous avez de l'affection, je dirais, pour cette chaîne-là. Moi, je sais, Thalassa, c'est quand j'étais plus. Voilà, c'était une bonne transition parce que vous avez parlé des enfants. Quand j'étais enfant, voire même ado, c'était la chaîne que je n'avais pas envie de regarder. Ça m'embêtait. Maintenant, c'est la chaîne que j'ai envie de regarder, que je regarde avec passion et avec admiration. Et je me dis, pourquoi quand on est enfant, alors peut-être pas enfant, mais je dirais ado, pourquoi en fait on n'a pas d'attirance pour ce genre de chaîne? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut changer et comment en fait on peut peut-être plus sensibiliser les plus jeunes justement via ces images et notamment via Thalassa par exemple? Voilà, moi en fait c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Pourquoi je n'aimais pas ça quand j'étais plus jeune alors que maintenant c'est quelque chose que je regarde avec passion et qui me touche et qui m'impacte en fait.
Ben, déjà, c'était un problème de génération. Vous êtes jeune, Thalassa a plus de 40 ans, même 40, plus de 45 ans. Donc, à l'époque, Thalassa, ça concernait plutôt vos parents qui devaient peut-être le regarder parce que vous, vous étiez ado, vous avez autre chose à penser. Ce n'était pas votre souci. Maintenant, vous en prenez conscience parce que vous dites, oui, c'est quand même un magazine sur la mer, sur la nature, des portraits. Vous devenez plus sensible. Mais c'est normal, ça vient de votre génération. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent même pas Thalassa ou qui connaissent même pas les films du commandant Cousteau parce qu'ils ont été éduqués avec les Star Academy, les Loft Story, les Koh-Lanta et compagnie. Et donc, quand on est dans ce genre de culture, c'est sûr que quand on regarde des reportages sur Arte, sur France 5, eh ben, ça gonfle les jeunes parce qu'ils disent, oh, c'est pas leur tasse de thé. Par contre, quand ils voient des clips, des chanteurs qui racontent tout, n'importe quoi, et le problème, c'est que ça déteint sur cette jeunesse-là. Et c'est très dur de faire, on ne peut pas faire un film. Sauf, je veux dire, le film qui va sortir, Les Gardiens de la Planète, le film de Jean Albert, où justement, il a touché un sujet très sensible et il a adapté pour le jeune. Mais quand je dis les jeunes, c'est les jeunes à partir de 12 ans, 12-13 ans. Et on a fait une expérience à l'UNESCO, il y avait plus de 600 gamins et tous les jeunes ont adoré ce film-là parce qu'ils ont regardé ça avec un œil neuf et surtout on leur a fait découvrir et ils ont appris beaucoup de choses. Donc, et ce qui se passe aussi, c'est que à votre époque, c'est les médias diffusent des programmes qui leur rapportent. Pour eux, ça leur rapporte plus de faire un Star Academy ou un truc comme ça que de faire une émission de Thalassa. Regardez, il y avait Ushuaïa qui était très bien. Ben, ça s'est arrêté. On a travaillé nous aussi pour C'est pas sorcier. C'était de très belles émissions. Ben, ça s'est aussi arrêté. Et pourquoi ça s'arrête? C'est des belles émissions culturelles qui touchent tout le monde. Parce que faire des émissions de reality rapporte beaucoup plus. Parce qu'il y a un problème business là-dedans, tout simplement. Après, c'est aux jeunes. Et puis, il y a le problème aussi de l'Internet. Donc, on vous bourre de films, on vous bourre de clips, on vous bourre de trucs. Et les jeunes sont devenus plus passifs qu'avant. Parce qu'avant, on cherchait une information, on allait la chercher, on allait à la bibliothèque et tout. Maintenant, on cherche un truc, hop, on va tout de suite sur Google et on la trouve. Donc, on n'a plus la curiosité de découvrir. Et c'est ce qu'il faudrait renouer un peu, c'est redonner l'engouement à tous ces jeunes de chercher de la créativité, de chercher quelque chose de manière à dire, ouais, c'est pas facile, je cherche, j'ai mon téléphone ou ma tablette et j'ai tout dessus, quoi.
Bien sûr, oui. Oui, on a à la fois plus accès à l'information et donc ce qui devrait être génial pour justement plus s'informer. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, peut-être que ces informations sont noyées parmi tant d'autres. Et puis, je pense aussi, comme on dit, qu'on est passif dans le sens où tout nous vient à nous et c'est pas nous qui faisons la démarche de vouloir se renseigner sur tel ou tel sujet, quoi.
Ben oui, on a enlevé le côté curiosité un peu enquêteur des jeunes.
Ouais.
Donc, du coup, on sert tous sur un plateau.
Complètement, oui.
Alors, c'est pas tant un reproche, hein, parce que c'est comme ça, il faut voir avec son temps, hein. On a la modernicité, on a tout ce qu'il faut, hein. Et là, avec l'intelligence artificielle, je ne sais même pas comment ça va finir. On va devenir des machines. Mais de toute façon, une machine n'aura jamais un sentiment, une émotion que pourra donner un humain. Mais bon, là, on est dans une mouvance, donc ben, continuons. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner nos cultures d'origine, quoi. Et c'est pour ça que quand vous me dites, avant, le Thalassa, ça ne vous intéressait pas, parce que quand vous étiez ado, eh ben, vous étiez peut-être plus sensible à d'autres émissions ou autre chose. Hein.
La Star
C'était des...
Academy.
Ben, voilà, c'est ce que je vous disais, la Star Academy, parce que c'était plus adapté pour vous, quoi.
René, il y avait une autre question que je voulais vous poser, un petit peu plus technique, peut-être sur votre métier. Comment on se fait embaucher par un producteur ou par une chaîne pour être réalisateur sous-marin? Est-ce que vous êtes en compétition avec d'autres personnes? Est-ce que vous devez prouver vos talents de plongeur?
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours pareil, ça dépend de la nature du projet. La première chose, moi, que je dis aux gens, parce que je forme maintenant des jeunes, hein, à la vidéo sous-marine, parce qu'il est temps de passer aussi la relève aux jeunes. Donc, je leur dis, tout, ça se fait pas en deux temps, trois mouvements. Il faut d'abord, déjà, soi-même, être un bon plongeur. Donc, tant qu'on n'est pas un bon plongeur, on ne pourra pas faire de la belle image. Et un bon plongeur, c'est pas d'avoir les plus beaux diplômes, c'est-à-dire d'être dans l'eau régulièrement, d'être vraiment très aquatique, faire attention à l'environnement. Tout ça, c'est un tout. Il faut en gros que vous oubliez que vous êtes en plongée quand vous êtes sous l'eau, tout en prenant bien sûr les normes de sécurité, c'est-à-dire les temps de plongée, les paramètres, respecter les profondeurs. Mais il faut que vous soyez très très bien dans vos têtes, c'est-à-dire très aquatique. Ensuite, eh bien, au niveau matériel, il vous faut du très bon matériel. Maintenant, la technologie a tellement évolué qu'avec du matériel pas cher, on peut faire de la belles images. Et donc ça, c'était une plus-value pour que les jeunes puissent se lancer. Après, de dire ben, comment on contacte les producteurs, ben, la meilleure carte de visite, c'est de faire son petit propre film ou son propre clip pour montrer un petit peu le style d'image que l'on sait faire. Parce que des poissons, des requins, ben, tout le monde sait en faire, hein. Maintenant, après, il y a le côté, le feeling qui fait que ce plan-là, ben, il sera mieux vu ou mieux perçu par un réalisateur qu'un autre producteur. Donc ça, c'est très important. Et moi, je le vois avec mes stagiaires. Quand j'ai quatre stagiaires, ils ont tous les quatre le même sujet. Eh ben, j'ai quatre prises de vue différentes. Et donc, et ça, ben, ça se fait à la sensibilité, hein. Donc, pour moi, la meilleure formation, c'est un page, et c'est ce que j'ai fait, c'est la formation SLT, c'est-à-dire la formation sur le tas. Donc, voilà. Et c'est là, en étant sur le terrain, qu'on peut mieux comprendre, parce que l'avantage et l'inconvénient de la prise de vue sous-marine, c'est que les prises de vue que l'on fait sur l'animalier sont des prises de vue exceptionnelles et qu'on ne peut pas les refaire. Donc, et puis, si un animal vous offre une séquence inédite, c'est le jackpot. Moi, je vois même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des gens, des amateurs qui ont fait des images que j'aurais envie de faire. Eh ben, ils sont tombés dessus, et je les félicite, je suis très content pour eux. Donc, maintenant, après, pour arriver à se vendre auprès d'un producteur, d'un réalisateur, il faut d'abord être bien sûr de son côté, avoir déjà fait de l'expérience.
Bien sûr. Et vous êtes du coup vous-même producteur de films sous-marins et vous avez créé votre propre société de production, le Label Bleu Production. Le nom est bien trouvé. Qu'est-ce que vous avez envie de partager au travers de ces reportages?
Ah ben moi, ce que je fais partager, c'est en fonction de ce que me demandent les diffuseurs. Donc, si un diffuseur me dit, voilà, je veux faire un film sur les baleines, ben, je vais faire un film sur les baleines. S'il veut faire un film sur les tortues, je fais un film sur les tortues. Je leur propose des sujets. Par exemple, moi, avec Thalassa, je travaille toujours avec eux. Je leur propose des idées de sujets. Et donc, si ça marche, ben, on le fait ensemble. Moi, j'ai abandonné la production pure parce que j'ai pas le temps. Et puis ça me prend un peu la tête, donc ce que je fais, c'est des coproductions, c'est-à-dire je propose des idées de sujets, on les co-réalise ensemble et le producteur s'occupe de tout ce qui est partie commerciale, diffusion derrière, parce que rien que ça c'est de l'énergie pour moi perdue et du temps perdu que je peux pas passer dans l'eau à tourner les scènes que j'aimerais faire plutôt que de rester à Paris et courir avec mon ordinateur montrer des images, voilà. Donc, et puis je suis très mauvais commercial aussi. Donc, du coup, je préfère être sur le terrain et partager le travail parce que c'est un travail d'équipe. Ce que malheureusement les gens ne comprennent pas, c'est que on n'est pas tout seul derrière une caméra, c'est qu'il y a toute une équipe derrière, quoi.
Bien sûr, complètement. Est-ce que ça vous arrive d'aller plonger sans caméra?
Non.
Non, ouais, vous avez vraiment cette passion et pour vous, c'est un objectif finalement.
Oui, sauf l'été, quand je suis à Marseille, je veux faire des baptêmes de plongée à des amis ou un truc comme ça. Mais déjà, je ne suis plus trop pour le loisir, sauf quand je suis avec ma femme, et c'est très rare hein, maintenant. On se fait un peu plaisir, mais j'ai toujours ma caméra avec moi en général, quoi.
Et vous diriez que vous avez à la fois une passion pour la plongée et pour l'image, ou plus pour l'image, et finalement la plongée est un moyen pour vous.
Ben pour moi, la plongée est un moyen d'accéder à l'image et c'est un moyen de vous faire partager ma passion. Voilà, je m'en sers pas pour moi, mais quand je tourne pas pour moi parce que ça sert à rien d'avoir les images, les foutre sur mon placard ou ma télé. Les images, c'est pour vous les faire partager, pour vous montrer ce qui se passe. En gros, ma caméra est un petit peu votre œil, votre subjectif. Et comme je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas aller où je vais, eh ben, c'est pour moi la meilleure méthode de vous dire voilà ce qui se passe et j'essaye. de vous retranscrire de façon naturelle comment se comportent, comment vivent les animaux, et de manière à dégager une émotion dans l'image, quoi.
Génial. J'aime bien l'idée de vous êtes nos yeux dans des endroits où on ne peut pas aller. Et en parlant de ça, j'imagine que vous avez dû faire des plongées parfois très engagées pour aller récupérer des images qu'en effet peu de gens peuvent avoir. Est-ce que vous êtes en termes de plongée technique, est-ce que vous plongez en trimix, est-ce que vous avez parfois plongé dans des grottes, dans des cavités? Quelle expérience en plongée un petit peu technique vous avez?
Ben, moi, j'ai passé pratiquement tous mes diplômes, hein, que ce soit en plongée cave, en plongée profonde, en trimix, en recycleur. J'en ai besoin pour mes assurances. Mais dans ces cas-là, je pars jamais tout seul. Je pars toujours avec une personne qui est plus expérimentée que moi. Pourquoi? Parce que moi, je me concentre sur le tournage et pas sur la technicité. Quand je plonge avec un recycleur, j'ai mon homonyme Aldo Ferrucci que j'ai depuis 2004, qui me fait ma sécurité. Quand j'ai un problème sous l'eau, je lui tends le bras, il regarde l'ordinateur du recycleur, il me change les paramètres, il me dit c'est bon, on continue ou on arrête parce que ça va pas. Mais je peux pas me concentrer sur le tournage et sur la sécurité en recycleur. En bouteille de plongée, il n'y a pas de souci parce que je sais ce que j'ai ma caution Mader avec sur mon ordinateur, je la connais au bar près, je suis complètement autonome. Mais lorsqu'on fait des plongées recycleurs ou des plongées dans des cavernes, ou dans le noir complet, où on ne sait pas où on va, je m'entoure toujours de gens plus expérimentés que moi pour assurer ma sécurité et aussi leur sécurité.
D'accord, vous avez votre assistant sous l'eau finalement.
Ouais. C'est plus des collaborateurs que des assistants.
Coéquipier. Et si on s'immerge avec vous, René, on part la tête en mer, quelle aura été la plus belle rencontre pour vous sous l'eau?
Oh, j'en ai plein.
Je
J'en ai plein.
sais, j'ai vu votre vidéo, enfin vos vidéos d'interview sur Thalassa et j'en ai retenu quelques-unes, mais je me suis dit, oh là là, ce monsieur a fait tellement de belles rencontres sous l'eau.
Non, j'en ai plein. Je ne les ai pas toutes racontées. Hein. Moi, la plus improbable, c'était filmer un ours polaire hein, à
Et ouais.
10 cm de loin. Donc.
La vidéo est incroyable. D'ailleurs, j'invite tout le monde à la regarder sur si vous tapez, je pense, René Ozet Thalassa, vous la verrez. Elle est folle. Ouais. Vous avez ressenti quoi quand il est passé si proche de vous? Parce que vous êtes sous l'eau, en fait, finalement. On a déjà vu des images d'humains qui rencontrent des ours polaires, mais sur la banquise. Là, vous êtes en plongée et l'ours est dans l'eau avec vous, quoi.
Bah, et c'est exactement ça. Et puis moi, ce qui se passe, sur son tournage, d'ailleurs, c'était un thalassa. Ce qui était improbable, c'est que au début, je voyais l'ours nager avec que ses pattes de devant.
Oui.
Parce que je suis pas kamikaze non plus. Donc, avant de m'approcher de l'ours, je l'ai quand même observé pour voir comment il se comportait. Et quand j'ai vu qu'il était pour moi un mauvais plongeur, parce qu'il plongeait, remontait, plongeait, remontait. Je me suis dit, bon, il est très lourd, je risque rien, je suis plus rapide que lui. S'il veut m'attraper, je purge mon gilet et je pars tout de suite au fond. Et quand je l'ai vu dans l'eau en train de nager un peu au loin, j'ai vu qu'il nageait que ses pattes de devant. Je dis, ah, bah, j'ai dit, alors je comprends pourquoi il reste à côté de nous, parce qu'il est handicapé. Et en fait, pas du tout. Il se sert de ses pattes arrière de gouvernail. Et quand je l'ai vu tourner, faire demi-tour et venir vers moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai pas bougé. Il a avancé, puis il m'a regardé. En fait, il était aussi surpris,
Ouais.
aussi curieux de me voir, parce que je pense qu'il avait jamais vu de plongeur, comme moi, j'avais jamais d'ours, quoi. Et c'est ce petit regard-là qui fait toute la magie du plan, quoi. Et je vous avoue que j'ai une demi-seconde de retard sur le plan.
C'est vrai.
Ouais, j'ai
Bon,
pas
ça.
panoté, parce que je savais pas qu'il me regardait. Et encore heureusement, j'étais au grand temps, mais j'étais tellement près que si j'avais pu anticiper une demi-seconde, ça aurait été encore parfait, plus parfait que ça.
Ouais, je pense que l'image est déjà incroyable et ça va être un super chouette souvenir pour vous. Il y a aussi une rencontre qui m'a touchée, c'est la maman qui allaite son bébé cachalot. Alors, je ne savais même pas
Oui,
déjà
ça
que
c'est
ça.
pareil. J'ai mis 7 ans pour faire cette séquence-là.
C'est vrai?
7 ans pour que, justement, je crois que je me semble c'est Germine, mais je suis pas sûr. Et elle, qui m'accepte de les filmer dans cette phase. Parce
Germine,
que.
c'est le cachalot. Hein.
Oui,
Vous leur donnez des petits noms.
Alors, moi, je leur donne des petits noms, pas pour faire de l'anthropomorphisme, mais quand
Repérer.
on voit ces mêmes animaux pendant des années, moi, je suis pas scientifique et je trouve que chacun a sa personnalité et c'est plutôt affectif de donner un prénom qu'un numéro. Parce que de dire le X328 ou le Z212, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout parce que déjà, ils m'invitent chez eux, ils m'offrent des prises de vue exceptionnelles. Et la moindre des choses, eh ben, c'est avoir un côté affectif et de leur donner des petits prénoms. Hein. On donne bien des prénoms pour des chiens, des chats et des lapins. Pourquoi on les donnerait pas pour des cachalots ou quoi que ce soit? Et d'ailleurs, beaucoup de scientifiques maintenant, même sur des requins, donnent des noms, des surnoms aux requins qui donnent un peu plus de personnalité, de rapports plus amicaux avec entre l'homme et l'animal, quoi.
Complètement. Et du coup, vous dites, donc, ouais, c'est Germaine qui vous a offert ce spectacle.
Ouais, ben une fois, elle était carrément, elle dormait tête en bas, elle savait que j'étais là. Je lui faisais des bulles parce que j'ai fait un système où je fais les mêmes bulles que les cachalots. Et du coup, ces bulles montaient le long de son corps. Et alors, je sais pas si elle chatouillait ou pas, elle bougeait pas. Puis je suis monté tout le long de son corps. Et à 10 mètres minute, elle faisait 12 mètres. Et donc, elle savait que j'étais là, juste sur elle. Et elle a pas bougé d'un centimètre, quoi. Alors, puis filer un coup de queue, quoi que ce soit, me faire dégager. Non, non, elle savait que j'étais là et tout va bien, quoi.
Elle avait confiance. Génial. Et il y a eu des images aussi que vous avez montrées des requins-baleines. Vous êtes dans le noir, complètement immergé dans le noir. Donc finalement, c'est seulement votre flash, votre lampe qui les éclaire. Alors moi, c'est un animal que je rêve de voir sous l'eau. De là à le voir dans le noir, et en plus, il n'y en a pas qu'un, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que vous ressentez sous l'eau à ce moment-là?
Ben, déjà, pour faire une séquence comme ça, j'ai mis plusieurs années, hein. Donc, parce que c'est pas évident, on met pas un éclairage et tout, hop, tous les requins viennent dessous. Donc, il faut être là au bon moment. Et puis, le problème de Djibouti, c'est qu'il y a des requins-baleines, mais il n'y a pas que des requins-baleines. Il y a du requin-tigre, il y a d'autres bêtes. Et dans le noir, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, déjà, on n'a pas le côté, profondeur de champ, on peut anticiper s'il se passe, s'il vient un autre requin ou quelque chose comme ça. Parce que tout se fait autour de l'éclairage. Mais au-dessous de l'éclairage, en fait, je mets des gros éclairages pour attirer, pour faire un recréer un petit peu la chaîne alimentaire et de manière à ce qu'à la fin, que le requin-baleine puisse arriver à manger tout le plancton. C'est comme ça que je suis arrivé à tourner les images. C'est-à-dire, en gros, j'éteins les phares, eh ben, il n'y a plus de requins.
D'accord. Et vous n'avez pas peur?
Ben, la peur, si on a peur, on n'y va pas. Moi, la peur, j'ai eu, bien sûr que je l'ai, mais je la contrôle. Parce qu'on n'est jamais rassuré. L'animal est imprévisionnel, surtout les requins. Donc, moi, j'ai filmé des requins blancs sans cage. J'en ai un qui est venu me taper dedans. Voilà. Mais si le problème, si j'ai peur, je lui montre que j'ai peur, il va comprendre. Parce qu'un requin, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fout sur son territoire. Donc, lui, il y a deux choses qui l'intéressent. C'est soit on est une proie, soit on est prédateur. Si on est un prédateur, eh ben, il va essayer d'aller un petit peu faire le forcing pour voir s'il peut s'imposer ou pas. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et si on est une proie, eh ben, il sait qu'on peut être, je vais pas dire un de ses repas, mais parce qu'il faut pas croire que le requin mange tout le temps. Mais il peut venir nous mordre ou quoi que ce soit. Et ça, lui, il le sent par leur sensibilité, les vibrations au battement de cœur.
D'accord.
Donc, si vous sentez, s'il voit que votre battement de cœur s'accélère, pour lui, il sait que vous êtes une proie.
Donc
Parce qu'il sait que vous êtes.
pour vous, la règle, ce serait vraiment de pour des plongées auprès de ces êtres-là, d'être quand même dans le contrôle finalement de cette peur-là et
Ben,
être
il faut
serein, quoi.
contrôler et il faut toujours avoir un plongeur de sécurité.
D'accord. Quand on est d'accord, René, que les requins ne sont pas censés manger les humains. On n'est pas une proie pour eux.
Ouais, mais le problème des requins, c'est l'histoire, ben, toujours pareil, hein, des dents de la mer. Hein. D'ailleurs, ça touche encore nos jeunes générations. Je dis pas qu'ils sont pas dangereux, ils sont potentiellement dangereux. Mais si on compare, les abeilles tuent beaucoup plus d'hommes que les requins.
Ou les
Même les
moustiques.
chiens âgés. Oui, non, mais en général. Sauf que quand tu tues un requin, ben, ça fait beaucoup plus de polémiques que si des abeilles quand les abeilles tuent des gens. Donc, il faut mettre chaque chose en place. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut tenir compte, c'est que le requin est chez lui. Quand on va dans l'eau, qu'on soit sur l'eau ou sous l'eau, on est sur son territoire aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il faut décimer les requins. En Polynésie, les requins vivent très bien avec les surfeurs. Ils vivent très bien avec les pêcheurs. Donc, parce qu'il y a un respect des deux. Donc, il faut pas non plus exterminer cette race qui sont là depuis 450 millions d'années et qui est un des maillons importants de la chaîne alimentaire. Il faut
Bonjour.
laisser faire la nature. Il faut laisser faire la nature. Moi, quand je vais sous l'eau, je suis comme un étranger qui va chez quelqu'un. Donc, je vais pas non plus arriver en terrain conquis et détruire tout ce qui me plaît pas. Donc, il faut se laisser accepter.
Complètement, oui. Alors, je ne sais pas si la question arrive au bon moment, vu qu'on a parlé des requins, et je sais que c'est un animal qui peut faire peur à pas mal de personnes encore, mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont envie de plonger, mais qui ont peur de mettre la tête en mer?
Ben moi, ce qui me fait marrer, c'est les gens qui me disent, moi, je sais nager là où j'ai pied. Donc, qui est 2 mètres sur vous, qui est 2000 mètres, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est tout écologique, c'est parce que quand vous êtes dans le bleu, ben vous ne voyez pas ce qui se passe. Et tout de suite, c'est votre imaginaire qui prend le relais et c'est ça qui vous trouble. Donc, moi, je dirais aux gens, déjà, allez si vous avez envie d'y aller. Après, deuxièmement, si vous avez une phobie que vous voulez quand même, ne partez pas seul. Partez accompagné avec des personnes à qui vous avez confiance. Parce que le problème, c'est qu'il suffit que vous avez une crampe, vous paniquez, et c'est là le problème. Et c'est ça ce qu'on appelle un accident. Donc, on peut l'éviter. Il faut jamais faire les choses si on n'a pas envie. Voilà. Il faut le sentir. Vous voulez apprendre à nager, vous avez peur, ben, allez d'abord apprendre à mettre la masque, aller en piscine. Vous mettez un masque, un tuba, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de compter des carreaux, ben, vous compterez des poissons. Donc, et dès que votre imaginaire sera pris dessus, pour ça qu'on fait des baptêmes de plongée dans des zones riches, parce que les gens ont toujours peur au début, mais après, dès qu'ils voient les poissons, les mérous, ben, ils se sentent bien et ils se rendent compte que c'est une activité qui est très facile. Voilà, si vous n'avez pas de problème d'oreille, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'eau. On apprend très très vite. Pas besoin d'être un très gros sportif, sauf si vous faites de l'apnée, bien entendu. Mais c'est une activité qui est très saine. Et moi, il y a beaucoup de gens qui en font maintenant leur thérapie. Hein, et quand ils s'en ont marre, qu'ils sont dépressés, ils partent en mer 8-15 jours, ils vont se vider la tête. Et
Complètement.
moi, je pars aussi, c'est mon petit jardin secret, quoi, parce que je ne me sens pas de rester dans un bureau là toute la journée ou quoi que ce soit. Je suis allergique au bureau.
Je crois d'ailleurs que vous allez, ouais, le quitter dans quelques jours pour partir sur un nouveau projet. Vous me parliez de l'île Maurice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ben là, je repars pour la 12e année, suivre là, toujours pareil, de cette même famille de cachalots pour différentes productions internationales et françaises. Et puis, je continue mon film. J'ai fait les 10 ans, maintenant je vais faire les 15 ans. Et comme ça va aider la communauté scientifique de voir en temps réel comment évolue une famille de ces mammifères. Parce que les scientifiques ont toujours des théories, des pratiques, de leur expérience vue de dessus. Mais maintenant qu'on est en dessous, et du fait qu'on joue sur la longévité, on découvre toujours de nouvelles choses, quoi.
Bien sûr. Est-ce que vous avez hâte de nous retourner à l'eau?
Oui, parce que je commence à être rouillé là. Ça fait plus d'un mois que je suis pas allé dans l'eau là et je suis vraiment pas bien du tout, quoi.
La Méditerranée, l'hiver, c'est pas pour vous?
Ben, c'est pas que c'est pas pour moi, c'est que j'ai tellement de choses à faire parce que comme je pars pour plusieurs mois, donc en fin d'année, c'est toujours pareil, préparation les bilans, préparation des tournages, voir un peu la famille. Donc j'ai pas vraiment le temps d'aller dans l'eau. Et puis la Méditerranée, ben c'est vrai qu'effectivement, vaut mieux aller quand les eaux sont claires, sont beaucoup plus riches qu'actuellement, où on est en période, on va dire, que la faune se re reconstruit tranquillement, quoi.
C'est la pause hivernale.
Tout à fait.
Super. Mais écoutez, merci beaucoup René, c'était un plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir parler de tout ça. Je pense qu'on aurait pu encore parler des heures ensemble. J'invite vraiment tout le monde à aller voir vos reportages, à regarder vos interviews aussi sur Thalassa qui sont vraiment géniaux. La rencontre avec l'ours polaire, il y a toutes les images qui sont montrées et c'est juste incroyable. Il y avait vos rencontres aussi avec les araignées de mer, avec quand vous étiez dans le Sardine Run. Donc là, vous êtes entouré de sardines. C'est juste fabuleux. Et j'espère, je vous souhaite plein de belles rencontres encore. Et puis continuez de nous partager tout ça parce que c'est juste magnifique.
Ben merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le film Les gardiens de la planète avec la voix de Jean Dujardin, où vraiment vous allez comprendre pourquoi les baleines sont si importantes pour notre survie.
C'est un
C'est un
film
très
qui sort
bon film.
bientôt?
Il sort le 22 février.
Super.
C'est un film de Jean-Albert Lièvre et c'est magnifique. C'est magnifique.
Quelles images vous avez prises pour ce film, par exemple?
Ben moi, j'ai tourné toutes les images de cachalots et des images de baleines à bosse. À
D'accord.
mourir.
À mourir. Waouh, génial. Eh bien, j'irai
Voilà.
voir ça avec plaisir
Ah,
et j'invite
les
tout le
images
monde.
sont fabuleuses. Allez, tous les collègues, là, tout le monde a fait un travail vraiment fabuleux et c'est exceptionnel au niveau des prises de vue, au niveau de l'histoire. Donc, il faut aller là-bas pour s'évader, c'est super.
Génial, trop bien. Eh ben, j'ai hâte que ça sorte et d'aller voir ça.
Voilà, le mercredi 22.
Mercredi 22, eh ben, impeccable. On ira au cinéma.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, René.
À bientôt, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La tête en mer. À bientôt!